Hey, I can't find nothing on the radio.
La mécanique des ondes.
You'll turn to that station.
Mécanique.
Bienvenue dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante, l'émission qui chaque mois vous raconte la radio à partir des parcours de ceux et celles qui la font vivre au quotidien. Et dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir la radio d'une passionnée du média qui œuvre chaque jour dans un drive. Pas un drive où on commande un Big Mac, mais plutôt un Fleetwood Mac, ni un Whooper, mais un Ben Harper, hein, vous l'aurez compris. C'est un drive bien pop rock dont il s'agit, celui de RTL2 où elle officie aux côtés du cuistot en chef Éric Jean-Jean. Mon invité se nomme Caroline Chimo, bienvenue à vous.
Bonjour, merci de me recevoir, c'est gentil.
Alors, vous validez l'introduction.
Très bonne blague que j'aurais pu faire. Très bon jeu de mots, bravo.
Mais la prochaine fois, si je passe vous voir au drive et que je vous fais un petit coucou, vous me servirez un petit Fleetwood Mac.
Un Whooper, du coup, si j'ai bien compris.
Surtout qu'il y en a à côté, hein. Bref. Caroline, vous êtes actuellement au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs?
Alors, on s'en parlait un peu hors antenne. J'ai eu la chance, moi, immédiatement d'être propulsée sur WeFM juste après mes études de radio. Mais ça m'a pas empêchée pendant mes années d'études, dont on reparlera, je pense, de faire quelques petits stages dans des radios associatives sans les avoir jamais vues. Ça a été le cas avec Positif Radio, qui est une radio dans les montagnes, où je suis jamais allée physiquement, finalement, mais où j'ai fait pas mal de voice track pour eux. Ouais. Ça m'est arrivé.
Et alors du coup, les radios associatives, vous en avez déjà écouté, non ?
Bien sûr, et je trouve ça génial.
Parce que je précise quand même, vous êtes, si je me trompe pas, originaire du nord de la France.
Exactement.
Et c'est une région, je sais, où ces radios sont vraiment nombreuses également.
Bien sûr. Les radios
associatives sont très présentes.
Puis je trouve ça super de faire ses premiers pas sur une radio associative. C'est finalement là qu'on touche le mieux le métier, puisqu'on parle plus que jamais aux gens, en fait. Et je trouve ça fort.
Et alors justement, vos premières écoutes radio, puisqu'on va commencer par le commencement, Caroline, est-ce que vous en avez des souvenirs de vos premières écoutes ?
Ouh là oui, la petite fille que j'étais, qui avait 9 ans et qui appelait Skyrock pour souhaiter un joyeux anniversaire à Difool, par exemple, ça a commencé comme ça. Et puis évidemment, j'ai toujours consommé beaucoup de radio, puisque j'appartiens à cette génération où la télé le soir c'était interdit, donc on allait se cacher dans son lit pour écouter Arthur et les Pirates, pour aller écouter RTL, les Grandes Heures, j'ai beaucoup, beaucoup mangé de radio avant de penser même à en faire.
Et justement, dans ce média, qu'est-ce qui vous a séduit ?
Alors, moi, je suis une très grande bavarde de base et j'aime beaucoup la musique. Et je me suis dit, tiens, il pourrait y avoir peut-être un métier à mi-chemin entre les deux. Et j'ai trouvé la radio assez vite.
Et alors, justement, c'est que la musique qui vous a attiré vers ce média,
non,
ou il y a d'autres choses?
En fait, c'est vraiment partagé avec les gens. Je trouve ça magique en écoutant simplement une émission, en écoutant simplement une voix, d'avoir l'impression de connaître une personne, de savoir dans quel état d'esprit elle est. Je trouve qu'il y a des émissions notoires comme ça où simplement en écoutant le bonjour de l'animateur, on sait s'il est bien luné, mal luné. Je trouve que la radio, c'est vraiment un univers fantastique pour ça, parce que ça laisse une très grande place à l'imagination, ce qui est moins le cas de la télé, par exemple. Et donc, oui, ça m'a toujours fascinée. Et l'envie de parler aux gens à travers un micro, je trouve ça fascinant.
Et alors, côté musique, puisqu'on parlait musique juste avant, votre culture musicale, c'est grâce à la radio que vous voulez te forger, à force de l'écouter pendant des heures, ou il y a les cassettes des parents aussi qui ont aidé?
Ouais, alors on était... Moi, j'ai grandi vraiment avec les deux opposés, c'est-à-dire Patrick Juvet très très fort quand c'était maman qui s'occupait de la playlist, et Led Zeppelin très très fort aussi quand c'était papa qui reprenait le dessus. Donc j'ai beaucoup baigné dans la musique à la maison, ça c'est vrai. La radio, ça m'a aussi ouvert un monde incroyable. Tu parlais tout à l'heure du Nord, il y a une radio qu'on reçoit dans le Nord qui est fabuleuse, qui s'appelle Classique 21. C'est franchement de la très haute qualité musicale à toute heure. Et ça, c'est sûr que ça m'a donné envie d'être curieuse, de me renseigner sur les groupes ancien, nouveau. Et puis très vite au collège, je sais pas pourquoi, ma mère d'ailleurs trouvait ça assez étrange, mais je m'en fichais très souvent du musicien de la classe. Et donc très vite, j'ai fait beaucoup de concerts. Très vite, je suis devenue manager de petits groupes de potes. Et donc voilà, ça m'a occupé pas mal ma jeunesse. Effectivement, les sorties en concert, c'était un peu mon truc, quoi.
Alors, petite parenthèse pour les auditeurs qui comprennent pas forcément ce dont on parle. Classique 21, c'est une radio publique belge.
Incroyable.
Voilà. Et pour préciser, parce que moi je l'ai déjà testé sur le terrain, la fréquence déborde vraiment sur une grosse partie du nord de la France.
Ouais, effectivement. Mmh. Et elle est fabuleuse cette radio. Je trouve qu'ils sont très courageux parce qu'ils font des émissions à thème. Et c'est pas le cas des radios, à savoir on peut passer une heure à écouter de la soul, on peut passer une heure à écouter du R&B mais très pointu, du rock très 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 pointu aussi. Et franchement, c'est très courageux à eux de pas se contenter de faire un mix entre vieillerie et nouveauté. Vraiment, ils font des émissions à contenu incroyable sur la musique.
Un jour peut-être la classique 21, qui sait.
Il faudrait que je travaille mon accent belge alors. Un peu.
Ouais, on va prendre le temps.
Ouais, on va se laisser un peu de temps.
Et du coup, on parlait des études. Alors justement, au niveau des études, est-ce que la radio a joué un rôle dans votre orientation?
Oh là, elle a mis du temps parce que j'ai des parents qui, quand je leur ai parlé de mes envies de radio, m'ont dit tout de suite « Ah ouais, alors non, on va pas faire comme ça ». Et donc très vite, j'ai fait un DEUC de sciences humaines, psychosociaux, donc à la base rien à voir. Ensuite, je suis allée faire des études de droit à la Sorbonne. Et puis à un moment donné, vraiment, j'ai commencé à expliquer à mes parents qu'il fallait faire quelque chose d'un peu plus artistique. Ils m'ont dit « Bah tu vas faire un BTS commerce international », ce que j'ai fait aussi. C'est pas du tout artistique. Mais une fois que j'ai eu fait ça, là, j'avais rempli mon contrat en quelque sorte. Et après, ils ont bien voulu que je m'inscrive dans cette école dont beaucoup de gens doivent te parler ici, le Studio École de France, qui forme les animateurs.
Et alors du coup, une fois au Studio École de France,
eh ben c'était parti pour les stages.
C'était un rêve déjà.
Ah ouais, ouais, ouais. Bah en fait, c'est assez drôle parce que je te disais que quand je faisais du droit à la Sorbonne, je m'étais dégotée parce que je m'ennuyais très très fort pendant les cours de droit civil. Je m'étais dégotée une convention de stage et j'avais réussi par je ne sais quelle aberration à intégrer Nova comme radio en stage. Alors à la base au service commercial, donc j'étais chargée de vendre des espaces pubs, ce qui me faisait vraiment pas rêver, hein, on va pas se mentir, mais ce qui avait clairement fini de me convaincre que la radio c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc j'avais gardé ça dans un coin de ma tête, j'avais passé ce BTS commerce international pour vraiment faire plaisir à ma famille, et ensuite je suis retournée à mes premières amours et là à mes stages. Donc j'en ai fait un avec Manu Lévy au Standard quand il était sur Fun Radio, puis sur RTL2, et voilà, c'est assez drôle de se dire que 12 ans après
ouais,
j'y suis plus stagiaire.
Oui, justement. Et d'ailleurs, vous faisiez quoi à RTL2? Moi, j'avais lu Auteur.
Oh, effectivement. Oui. Et pour, je me souviens, Greg Hacher, qui à l'époque faisait la matinale des vacances de l'été. Et effectivement, j'écrivais l'horoscope, je faisais la météo, j'écrivais des petites chroniques télé, des petites blagues, peut-être trop. Et c'est pour ça qu'ils m'ont pas recruté juste après.
Vous cherchiez déjà à vous faire remarquer.
Oui, un peu, peut-être. Peut-être. Ça, j'avoue que c'est un peu inhérent à ma vie, mais c'était déjà écrit sur mes bulletins de sixième. Je n'ai pas que réservé ça à la radio.
Et alors, j'ai lu aussi journaliste à French Radio London.
Ouais, alors ça, c'était incroyable. Donc, je venais à peine de rentrer au Studec et le boss du Studec me dit « Écoute, il y a un monsieur qui veut monter une radio à Londres, je comprends pas, est-ce que tu veux le voir ? Peut-être que tu vas pouvoir travailler pour lui. » Et en fait, du coup, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Patrick Gerson et qui avait donc cette ambition de créer une radio pour les Français de Londres. Et on a vraiment mis sur pied un programme donc qui émettait de Londres, que moi je faisais de France. J'envoyais mes petites chroniques, j'étais correspondante pour eux sur tout ce qui se passait en France, les faits d'actualité politique et tout ça. Et puis par la suite, je les ai visités. Donc, non contente d'aller à Londres, ce qui est très bien déjà. C'était vraiment chouette de voir une radio née, mais... Né quoi, enfin naître et, oui. et né, voilà.
Et cette aventure avait duré
un an, je crois, un an, et puis ensuite j'ai été embauchée par WeFM après le Studec.
Alors, On va aborder cette aventure justement WeFM qui allait marquer un nouveau tournant dans votre carrière professionnelle. Juste avant ça, l'invité à carte blanche sur la programmation musicale de cette émission, Caroline Chibot n'échappe pas à la règle. Votre premier choix musical,
c'est compliqué à dire.
Oui, c'est surtout une découverte parce que je connaissais pas du tout. Xavier Polycarpe et Sébastien Hoog.
Hoog, effectivement. En fait, c'est deux garçons qui se sont proposés pour faire la bande originale d'un film qui s'appelle Animal, qui est sorti il y a pas très longtemps et que je vous recommande. C'est sur la préservation des espèces. Alors à la base, le film est très intéressant et la musique, vous allez voir, elle est incroyable.
C'est ce que j'aime bien dans ce côté carte blanche aux invités, c'est qu'on découvre des choses, mais alors ils me font découvrir des choses aussi. Moi, j'apprends que Xavier Polycarpe, par exemple, je l'ai vu en concert à l'époque, quand tu étais dans un groupe qui s'appelait Gush, que j'adorais.
Effectivement. Et puis là, tu viens d'entendre aussi le guitariste Dizzy Higelin qui a co-composé avec elle ses deux premiers albums. C'est vraiment un super duo. Allez découvrir la musique qu'ils font et notamment tout ce qu'ils ont fait pour la bande originale de ce film, Animal, que je vous invite aussi à aller voir parce qu'il est vraiment fabuleux.
Un film de Cyril Dion, aucun lien avec Céline, bien sûr.
Aucun.
Il n'a pas l'accent.
Même moi, je ne l'aurais pas faite, celle-ci dit. Mais elle était bonne.
Merci. Vous êtes à l'écoute de la mécanique des ondes. Caroline Chimot est avec nous, qui est actuellement au drive d'RTL2, et que beaucoup ont connu en se réveillant le matin, à l'époque du morning de WeFM. Alors, on parlait de WeFM juste avant, du coup... Comment vous y étiez arrivé? Est-ce que c'était une radio que vous écoutiez déjà à la base?
Alors, j'adore cette radio et en plus, à l'époque, puisque maintenant c'est plus le cas, mais à l'époque elle était à Bastille, donc je pense 10 minutes à pied de chez moi, donc c'était drôlement pratique d'aller la voir. C'est la première que j'ai visitée, une des premières que j'ai visitées d'ailleurs. Comment ça s'est fait? En fait, quand je suis sortie du Studec, j'ai envoyé des chroniques à toutes les radios et notamment à celle-ci en me disant ce serait vraiment super de pouvoir un jour être chroniqueuse pour eux. Et puis j'ai rencontré la directrice des programmes, Fanny Temam, qui m'a proposé à la fin de l'entretien d'être co-animatrice de la matinale. Donc moi, qui n'avais jamais connu l'aube, qui n'avais jamais eu l'habitude de me réveiller au milieu de la nuit, et qui en plus n'avait jamais vraiment été animatrice radio, j'ai eu la chance de tout connaître en une rentrée. Donc c'était vraiment incroyable comme c'était incroyable en fait. Enfin, j'étais tellement contente, tellement fière. C'était vraiment chouette. Puis réveiller les gens, ça a vraiment quelque chose de particulier, je trouve.
Ouais, c'est le prime time de la radio. En plus, c'est vraiment le moment où la radio accompagne le public.
Ouais, c'est ce qu'on dit. Puis c'est tellement touchant après de rencontrer des auditeurs qui te disent, bah tu es la première voix que j'entends au réveil, avant même celle de ma femme. Je me dis, ça c'est quand même incroyable ça. Si vos mecs pouvaient dire la même chose, dis donc, oh, c'est incroyable de t'entendre avant ma femme, mais c'est pas le cas.
Alors du coup, première matinale, face au micro,
ouais.
Comment on se sent ?
Le stress est au maximum, mais assez vite, c'est fabuleux. Enfin, en plus, WeFM a une playlist musicale qui, à la base, me tient très à cœur. Donc envoyer un Led Zeppelin à 7h30 le matin, je trouvais ça fabuleux. Au départ, évidemment, je m'arrêtais à la météo, l'horoscope et les premières petites choses. Puis après, il y a eu les billets d'humeur, les chroniques à contenu et tout ça. Et ça, c'est devenu incroyable. J'avais l'impression de faire le plus beau métier du monde.
Et c'était ces chroniques, c'est des idées que vous apportiez au fur et à mesure,
ouais.
Où vous les proposez ou...
En fait, il y a quelque chose de très particulier avec les émissions du matin, c'est que bon, donc il est 3h du mat, on se lève, on sait que l'antenne commence à 6h, évidemment qu'on veut coller au plus proche de l'actu, donc très vite, moi je me suis rendu compte que le meilleur moyen pour être le plus possible dans l'actu, c'était d'écrire mes papiers à 3h du matin, donc je pense que j'étais seule avec les boulangers et les gens qui font le ménage à vivre ma nuit pleinement. Mais oui, donc moi, j'essaye d'écrire. J'écris mieux, je trouve, un peu dans l'urgence. Donc, c'était ma technique. Et à WeFM, effectivement, je préparais mes papiers à 3h du matin.
La nuit porte conseil, on dira.
Ouais, on dira ça. Ça dépend des jours, mais oui.
Alors, ce morning avait aussi une petite particularité. C'est comme le Docteur Who, quasiment chaque saison, l'animateur se réincarnait.
Ouais, oui. J'en ai vu pas mal, ouais. C'est vrai.
Il y avait eu Fabrice Brouwers, de mémoire, je crois.
Tout à fait.
Il y a eu Stéphane Cadadan, c'était pas avec vous.
C'était avant.
C'était après. Il y a eu Jérôme Cario.
Ouais, il y a eu Arnold. Ouais. Tous très différents. C'était pas du tout le même métier. En fait, c'est assez drôle parce que on se rend peut-être pas compte quand on écoute la radio, mais la façon de travailler dépend évidemment forcément beaucoup de l'équipe. Un co-animateur, c'est extrêmement important. Enfin, quand l'alchimie est bonne, on peut faire des choses merveilleuses. Quand parfois ça passe moins, c'est un autre travail, mais il faut que ça soit sympa à entendre. Et effectivement, chez WeFM, j'ai rapidement eu la chance de tester beaucoup de profils. J'ai fait aussi de la co-animation avec Josquin, avec Dom. Enfin, il y a eu pas mal de figures de WeFM avec lesquelles je suis passée. J'ai eu l'occasion de faire des émissions puisqu'il n'y a pas eu que le matin chez WeFM. Et vraiment, c'est très important d'avoir quelqu'un avec qui le contact est cool.
Et vous faisiez autre chose que de l'animation à WeFM ? Vous avez touché à d'autres tâches ?
Alors, c'est-à-dire que WeFM, par essence, c'était une petite radio. Et nous, on avait des matinales, mais pas comme les grosses matinales qu'on peut voir avec 25 personnes. Enfin, c'était pas rare que je me retrouve à faire du standard en même temps que le bonjour. Je pouvais écrire un papier sur un coin de table et puis devenir professionnel de l'infotrafic le jour où le mec était pas là. Enfin, voilà. Donc, en fait, on apprend à faire plein de choses juste via une émission. Et cette radio a été hyper formatrice pour ça. Je me suis retrouvée à animer des festivals Place de la République devant 10 000 personnes la veille, j'écrivais l'horoscope. Alors,
qu'est-ce que ça fait de se retrouver sur scène face à autant de personnes ?
Ça fait du monde, hein. Franchement, ça fait du monde. C'est très impressionnant, évidemment. Après, on sait bien que les gens sont pas là pour nous. Enfin, la plupart du temps, on présente de vrais artistes. Moi, en l'occurrence, je devais m'occuper de présenter Liam Gallagher, donc j'avais bien conscience que les gens n'étaient pas tous venus pour moi, mais plus pour le mec un peu rock'n'roll qui arrivait.
Mais ça doit faire une sensation bizarre quand on parle seul devant un micro dans une petite salle.
Ouais, et que du jour au lendemain, on se retrouve effectivement avec la tête. Ouais, mais à la fois, j'ai envie de dire, c'est dans ce genre de conditions où le métier prend son sens, parce que c'est vrai que très vite, quand on s'entend bien avec son équipe, on a tendance à presque oublier qu'on parle à des gens. Dans ce genre d'occasion, là, on voit bien que les auditeurs, ils sont pas arrivés là par magie et que donc ils ont dû nous entendre en parler à la radio et que donc c'est bien eux qu'on voit en face de nous. Moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant de rencontrer les auditeurs. Je trouve ça hyper important. C'est pour ça que, par exemple, cette année pour le Drive, je voulais mettre en place un jeu parce que je trouve que parler avec l'auditeur, C'est grâce à l'auditeur qu'on est là. Enfin, ça a énormément de sens, quoi, de savoir à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il écoute, qu'est-ce qu'il a envie d'entendre. C'est mon obsession permanente.
Alors, on reviendra sur le drive justement tout à l'heure, puisqu'il en sera question aussi. Juste pour rester sur WeFM, je pense même la radio globalement. WeFM, c'est une radio dans laquelle, vous l'avez dit, il y a beaucoup de stars du rock qui sont venues, mm-hmm. qui ont été interviewées. Vous en avez fait ou pas, non?
Ah oui, bah oui, j'étais derrière Alex Turner, le chanteur des Arctic Monkeys, pour prendre mon café. Il n'était pas rare que tu croises les Green Day dans un couloir. J'ai des souvenirs de concerts très privés qui devaient pas s'appeler comme ça à ce moment-là, mais enfin des Hives qui ont littéralement retourné la radio. Enfin oui, j'ai vu des choses extrêmement rock dans cette radio et c'était incroyable. Après, il y a des choses plus tristes aussi qui se passent. Moi, mes années WeFM, je me rappelle par exemple d'annoncer la mort de Bowie à l'antenne. J'ai pas trouvé ça. Alors évidemment, Mais c'était des moins bons souvenirs. On a vécu aussi les attentats, c'était vraiment pas cool dans la mesure où on avait envoyé nos auditeurs voir ce groupe de rock. Donc évidemment, on a été plus que touchés. Mmh. Il y avait une partie de l'équipe qui était présente au Bataclan. C'était vraiment pas facile. Enfin, en fait, la radio et mes expériences en radio, c'est un peu l'histoire d'une vie. Il y a des hauts, des bas, des trucs incroyables qui se passent et puis des trucs plus tristes. Enfin, et je trouve ce média fantastique pour ça, parce qu'il retranscrit un peu la vie.
C'est ça. Et j'ai déjà reçu des anciens de WeFM aussi dans cette émission. Tous me ressortent souvent l'esprit de qu'avait cette radio, ce côté bande de potes.
Incroyable.
Vous avez gardé contact avec vos anciens camarades?
Oui, de nombreux, ouais, bien sûr. J'ai Arnold au téléphone régulièrement. Je vois Sacha très souvent aussi, par exemple, de WeFM. C'est probablement une des rares radios où, quand on avait fini le boulot, on restait sur place pour discuter, pour boire des verres. Je crois que le bar le plus proche était vraiment devenu la deuxième maison de l'équipe de WeFM, où on nous trouvait à la radio ou là-bas, dans ce bar juste à côté. Enfin, il y avait vraiment un esprit de famille qui était incroyable. Oui.
Et l'aventure WeFM, du coup, pour vous, aura duré combien d'années?
7 ans en tout. 7 ans, 6 ans de morning et une année un peu tronquée, un peu étrange. Je suis arrivée là-bas un peu par hasard et je suis repartie aussi un peu avec fracas. Ça arrive, voilà. Donc
c'est la vie aussi, on dira.
Exactement, exactement.
Et alors du coup, je cherche comment formuler la question. Comment la suite s'est écrite pour vous ensuite?
Alors après WeFM, j'avoue que... On se l'est raconté hors antenne, je peux le dire aussi à l'antenne. Du jour au lendemain, quelques jours avant Noël, on m'a annoncé que l'émission ne continuait pas. Donc, c'est le genre d'information qui te laisse un peu perplexe. Donc, du coup, moi, j'aime pas trop stagner. Donc, c'est vrai que quand ça m'est arrivé, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose d'autre à faire. Alors, du coup, quelque chose de prévu pour moi, de sympa. Et j'ai pris mon sac à dos et je suis partie voyager. En Afrique du Sud, en Thaïlande, j'ai fait des voyages solo. Et c'est assez drôle puisque, du coup, voyage que je racontais et sur un blog et qui m'a permis après d'avoir des contacts avec d'autres professionnels de radio qui se sont dit, ah bah, je savais pas que tu voyageais, puis je savais pas que tu faisais plus de radio, et puis si on se voyait, et puis voilà, et puis ensuite, j'ai été contactée par une radio en Suisse et je suis partie là-bas.
Alors, cette radio, c'était Rouge FM.
Ouais.
Donc là, rebelote encore la matinale.
C'est reparti.
Donc toujours le réveil à 3h du matin, toujours. et tout ça. Mais en plus, c'était pas seul, puisqu'il y avait Sacha, je crois, qui était avec vous aussi.
Ouais, en fait, c'était
rigolo. Maison FM.
Je suis d'abord arrivée un peu seule, sans aucune connaissance en Suisse, en me disant, bon, ben voilà, l'opportunité se présente, allons-y. Et très vite, à Rouge, on m'a demandé si je connaissais des gens qui avaient la vanne efficace. Et s'il y en a bien un auquel je pense quand on me parle de vanne efficace, c'est bien Sacha Rosenberg, donc que j'ai appelé et qui m'a rejoint quelques mois après. Et on a pu faire une partie de cette saison ensemble, c'était top.
Alors, sur cette parenthèse suisse, du coup, est-ce que vous avez noté des différences dans la manière de faire de la radio là-bas par rapport à en France?
Alors,
est-ce qu'il y avait plus de liberté?
Alors... moi, j'ai eu la chance donc de rencontrer Hugues de Montfalcon qui s'occupe de cette radio, qui est donc un privé, qui oui, lui part du principe que la radio doit être dingue, doit être folle. Il nous parlait de faire des émissions dans des avions. Il nous disait mais ce serait énorme que vous fassiez embarquer par la police. Bon, tout en nous disant que quand même, voilà, il allait pas venir nous chercher non plus tous les quatre matins, donc on faisait quand même de la radio qui était relativement proche de la radio française. Après, oui, dans les expressions, j'ai dû découdre quelques-unes de mes expressions pour les réadapter à la Suisse. Là-bas, on n'appelle pas le 79, on appelle le 79. Enfin, il y avait quelques petits bouts de langage qu'il fallait changer et adapter. Mais en soi, on faisait à peu près le même métier. Enfin, voilà, réveiller les gens, ça reste réveiller les gens avec de la musique. Voilà.
Cette vie hors France avait duré ?
Alors, une saison, elle aurait pu durer plus longtemps, cette expérience, mais j'ai adoré la Suisse, j'ai trouvé ça vraiment magnifique comme pays. Après, c'est vraiment une culture très différente de la nôtre, et je dois reconnaître que on a du mal à se faire des amis, nous, les Français, là-bas. Ils sont, et on peut les comprendre, ils se voient entre eux, les Suisses, et ils ont un peu de mal à intégrer les Français qui leur volent leur travail pour beaucoup moins cher.
Le fameux, ils nous volent notre travail, bien sûr.
Non, mais enfin, bon, je fais pas de généralité, parce qu'évidemment, je me suis fait quelques amis en Suisse, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était difficile de s'adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle monnaie. Enfin bon, j'en passais des meilleurs, enfin, c'était plus du tout les mêmes conversions. La sécu, là-bas, ça n'en ressemble en rien chez nous. Enfin, il y avait des tas de démarches à entreprendre dont je me sentais bien incapable, et Paris m'appelait.
Alors, on va revenir sur cette nouvelle escapade parisienne. Ouais. Mais juste avant, deuxième choix musical, Caroline. Alors là, c'est un titre pas suisse du tout.
Pas suisse du tout.
Pas suisse du tout, mais qui est très sympa hein, quand même. Ça n'empêche rien. Joy Crooks.
Une petite londonienne de 23 ans. Vous allez voir, si vous pensiez qu'Amy Winehouse n'avait pas de relève, bah, peut-être qu'on s'est trompé.
Summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? It was penny paradise, just a pretty little lie, and it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor line, never take it easy on the PDA. I don't miss you, at least not that way, but someone better want me like that someday. But I just can't hate them. You're breaking all the rules down Electric Avenue. Oh, I've never seen too many moves. Hand in hand, cold harbor lane. Never take it easy on the PDA. I don't miss you, at least not that way. But someone better want me like that someday. Dude.
Joy Crooks avec When You Were Mine à l'instant dans la mécanique des ondes et sur Fréquence Protestante. C'est le choix musical de Caroline Chimo qui est avec nous pour encore un petit quart d'heure.
Allez.
Allez.
Allez, j'espère que c'est là que tout va se passer.
Bah, je plaisante.
Là, on a déjà abordé une bonne partie de votre parcours. On a été au Studec, à French Radio London, à Oui FM, à Rouge FM. Autre radio en rouge maintenant.
Oui, parce que je ne prends que des radios rouges, oui. Voilà.
Ça porte chance, on dira.
on dirait que c'est le cas.
Donc, RTL2, ça fait bientôt deux saisons que vous y êtes au sein du Drive.
Ouais.
Deux saisons qui se sont bien passées.
Fabuleuses. Et tous les jours, c'est le même plaisir. Entre 16h et 19h, effectivement, on essaye de parler de musique sans en faire trop, juste ce qu'il faut, je dirais.
Alors justement, comment vous avez rejoint RTL2 et puis surtout le Drive qui était déjà en place depuis plusieurs saisons ?
Eh ben, c'est moi qui ai d'abord contacté Éric Jean-Jean, parce qu'effectivement, des émissions dans lesquelles on parle un peu de rock'n'roll sur la bande FM, il n'y en a pas 150 000 non plus. Et puis Éric Jean-Jean, c'est quelqu'un que j'ai écouté... J'ai l'impression qu'il fait partie de ma vie, tellement RTL dans la voiture quand j'étais petite, voilà. Et donc, je me suis permise de le contacter en lui disant que si un jour, il avait envie d'une voix féminine, j'étais là. Et ça s'est fait. Donc voilà, on s'est rencontrés et ça s'est fait.
Et alors, les premiers jours dans cette émission, vous n'avez pas eu trop de difficultés à trouver vos marques, vous imposer?
C'est vraiment un autre exercice, en fait. C'est assez incroyable parce que, bon, donc on en parlait, j'ai une plus grosse expérience dans les matinales, donc des émissions où on parle entre chaque disque, où il faut être très tonique, très dynamique, où finalement les moments de bavardage sont très courts, mais il faut que ce soit efficace, que ça réveille bien les gens. À une émission où on va s'intéresser au contenu, où on va essayer de dire des choses intelligentes et où la chronique peut durer un peu plus longtemps que quelques 30 secondes. Donc c'est complètement un contre-exercice pour moi, surtout que j'ai un peu de mal à me canaliser, vous le savez, je suis bavarde, maintenant on a compris. Et donc cet exercice est vraiment très particulier pour moi, mais très intéressant du coup, parce que c'était un nouveau challenge, il fallait faire court, efficace, précis. Moins court qu'une matinale, pas forcément le même ton, mais en même temps, moi je trouve que il y a autant d'émissions de radio que de challenge et je les accepte tous.
Et alors justement, au sein de l'émission, vous avez pu apporter au fil du temps votre patte personnelle. Je pense que vous parliez tout à l'heure
du jeu
notamment, ouais.
Ouais, comme je vous le disais, c'est vrai que c'est une. J'ai vraiment l'impression de faire de la radio pour les gens, donc c'était important pour moi d'amener dans l'émission un moment où on pouvait avoir au bout du fil nos auditeurs. Et depuis qu'on le fait, donc c'est tous les jours à 17h30, je trouve ça fascinant. Les auditeurs sont tous, je vais pas dire extraordinaires, mais je trouve que si. Ils ont tous des métiers incroyables. Enfin, il y a deux semaines, on recevait une dame qui fait écouter de la musique dans les vignes, à ses vignes, pour qu'elle pousse correctement. C'est quand même un métier incroyable. Bon, bah, cette dame écoute RTL2 et a joué avec nous et je trouve ça fascinant d'en savoir plus sur les gens qui nous écoutent. Voilà, elle nous racontait son métier. On était aussi fascinés qu'elle ne l'était de passer à la radio. Donc, je trouve ça incroyable comme échange et j'aime ces moments d'échange.
C'est ce qui vous motive justement à prendre le micro chaque jour.
Exactement.
Alors justement, une émission du Drive au quotidien, comment ça se prépare? Parce que vous dites il y a de la musique avant tout, mais il y a aussi des rubriques, il y a des fois des invités qui viennent en studio pour jouer, pour être interviewés.
Effectivement, on essaie d'être complet au maximum. Donc chaque jour, il y a une nouveauté. Alors ça, c'est pas compliqué. Faut les chercher, faut les écouter, faut les trier et faut se demander ce qui correspond le plus à la cible de nos auditeurs. Ça, c'est une première chose. Il y a effectivement des chroniques dites éphémérides, c'est-à-dire que si on est aujourd'hui le 10 mai, le 10 mai en 72 il s'est passé un truc incroyable, bon bah c'est bien d'y faire écho, donc pour ça il faut chercher, travailler, se documenter un peu. Puis il y a aussi les gens dont c'est l'anniversaire, ça c'est pareil, c'est des recherches, c'est pas mal de recherches en vrai. Et puis ensuite il y a les invités, et alors là en général c'est plutôt leur promo à eux qui vient se marier à notre planning à nous. Mais c'est pareil, c'est toujours des invités pour lesquels on a des vraies affinités, qui musicalement sont proches de nous, voilà. Et puis ensuite, bah un peu comme vous avez préparé cette superbe interview, on se documente, on cherche, voilà, et on prépare tout ça.
C'est ça. pour sortir un petit peu du sud de RTL2, je voudrais te parler de radio et de rock en général. Parce que moi, je sais pas vous, mais moi, d'un point de vue personnel, j'ai l'impression qu'en France, on a un peu du mal à faire une bonne radio rock en excluant RTL2 qui est pop rock. Il y a WFM aussi. Il y a des émissions de spécialistes comme Georges Lang, par exemple, c'est le premier qui me vient en tête. Il y a des radios associatives spécialisées un peu partout en France. Mais est-ce que c'est si difficile que ça de faire une radio rock en France comme on l'a fait en Italie ou à Londres?
Alors, moi, je pense qu'on devrait avoir effectivement plus de radio rock parce que c'est ce que j'écoute. Mais force est de constater, quand on regarde un peu les ventes d'albums et autres... Bon, alors, excepté par exemple un groupe comme Gojira dont personne ne parle, alors que je trouve ça incroyable qu'ils vendent des centaines de milliers d'albums un peu partout dans le monde et que nous, on a du mal à leur faire une place sur une radio parce qu'on ne sait même pas où les mettre, tellement ils font quelque chose de particulier. Mais en soi, effectivement, je pense qu'une radio rock aurait parfaitement sa place parce que je connais des tas de gens qui font du rock, qui écoutent du rock, et c'est dommage que personne ne s'y ose. Mais je pense que c'est vraiment une question de... Il faut s'y oser, en fait. Il faudrait qu'un jour, quelqu'un ait le courage de dire « je ne fais que du rock ». Bah oui, FM le fait, et l'a fait très bien, même si ça glisse de temps en temps un peu vers de la musique plus accessible, un peu moins rock et tout ça. Enfin, c'est l'éternelle polémique. Après, je pense que maintenant, les gens ont accès à tellement de choses pour écouter de la musique, à tellement de supports, que...
Bah, c'est là-dessus que je vais rebondir justement. Du coup, est-ce que la radio musicale a encore de beaux jours devant elle face au YouTube, Spotify et compagnie?
Alors, moi je pense que oui, si on continue de dire que la radio c'est pas que de la musique. Voilà, s'il y a des personnalités qui apportent quelque chose avant ou après le disque, j'ai envie de dire peut-être les gens continueront d'écouter. Si on fait le choix de se dire que bah la radio c'est qu'une playlist, effectivement, j'ai envie de dire, bah, autant aller sur Spotify, payer 9€, comme ça, il n'y a pas de pub, et puis, on enchaîne les disques. Mais je pense que la radio musicale a de l'avenir à partir du moment où la radio musicale est un peu investie par des personnalités. Si, effectivement, personne ne parle et que c'est que de la musique, je vois pas l'intérêt d'écouter une radio plus qu'une plateforme. Donc, il faut vraiment apporter quelque chose. Et je crois que c'est ça le vrai travail des gens qui veulent faire de la radio. Ouais. Il faut proposer quelque chose.
C'est ce que vous vous efforcez à faire chaque jour avec Eric.
On essaye.
La mécanique des ondes.
Et on vous souhaite encore plein de belles choses pour les saisons à venir, notamment au drive d'RTL2. Je suppose que l'alchimie se passe très bien avec votre équipe.
Très bien, nickel, très bien. Ouais.
On va passer maintenant à la partie question de la mécanique des ondes avant de vous quitter, Caroline Chimo. On va commencer avec la question capsule que j'ouvre tout de suite. À l'intérieur, une question posée il y a un mois ici par Juan Gomez qui anime l'appel sur l'actualité sur RFI. Tous les matins, on l'écoute.
Bonjour Caroline Chimo, l'auditeur que je suis d'abord vous remercie de nous accompagner avec le son pop rock toutes les fins d'après-midi. Merci infiniment et vous avez une chance incroyable de travailler avec Eric Jean-Jean. Ensuite, c'est le professionnel que je suis qui aimerait savoir si comme moi, enfant, vous aviez déjà cette passion de la radio, cette envie de parler aux autres, de partager des histoires. Si comme moi, vous enfermiez dans votre chambre et à faire de la radio, voilà, de la radio imaginaire.
Avec le petit magnétophone et laisser des parents piquer en cachette.
Bien sûr, mais évidemment, le Fisher Price, là, je le vois, je mettais mes cassettes à l'intérieur. Cassettes, d'ailleurs, que j'enregistrais à la radio en coupant, en essayant d'arriver au moment où l'animateur se taisait pour moi-même venir présenter. Ouais, c'est incroyable. Je pense que tous les gens qui font de la radio, très petits, savaient déjà peut-être un peu. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à l'avouer parce que je me disais qu'il fallait être quelqu'un de grand, une personnalité.
Alors, ça tombe bien qu'on en parle, puisqu'on a retrouvé un extrait qu'on écoute. Non, pas du tout.
Ah, je me suis dit, dis donc, incroyable, non,
c'est pas les enfants de la FM, non. Mais non, tiens, plus sérieusement d'ailleurs, non, c'est parce que j'y pense, si vous deviez vous émanciper et avoir votre propre émission de radio, elle ressemblerait à quoi?
Elle serait un peu farfelue, je pense. C'est facile à dire quand c'est pas fait, mais je pense, et on s'en parlait aussi hors antenne, ce qui marque les gens, c'est clairement quand les choses sortent un petit peu des sentiers battus. On se souvient toujours des moments de radio quand ça décroche, quand ça se passe pas comme ça devrait se passer, quand c'est surprise sur une idée originale de maintenant, tout de suite, en direct, il se passe quelque chose. Je pense j'espère pouvoir un jour m'autoriser une émission comme ça où effectivement l'imprévu, l'incongru peut tout à fait s'inviter à n'importe quel moment. Parce que moi, c'est ce que j'aime entendre, c'est les bobos où ça dérape un peu. Et je crois que ce serait un peu plus déconnant, je sortirais un peu du cadre, j'avoue, je reconnais. Moi, j'ai pas peur de parler sur les top horaires et les jingles, je m'en fiche.
Radio Caro, l'émission Tout peut arriver bientôt, prochainement, qui
allez,
sait.
On verra allez, bien. Chiche.
On va terminer avec le questionnaire rapide maintenant. Prête ?
Ouais.
C'est parti. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle ?
Éric Jean-Jean.
Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ?
Skyrock.
Avant ou après rap ?
Avant le rap, mais en même temps, depuis le rap, ça va aussi.
Quelle radio vous réveille le matin ?
Ah, j'alterne entre Hit West, parce que j'ai une très bonne amie qui s'appelle Mélissa, qui actuellement y travaille, et RTL, et France Info, et France... En fait, je varie en fonction de l'humeur et du temps. Voilà.
Quelle radio vous endort le soir ?
Ça, c'est dur. La plupart du temps, RTL 2, parce qu'en vrai, ma chaîne fille est coincée dessus. Et je dirais Les Nuits à l'ancienne de Maurice. Mais alors, il y a un temps...
Ça existe encore, hein, sur Internet.
Je sais. Je sais, mais du coup, ma chaîne fille n'est pas bloquée sur sa web radio, du coup.
Un endroit où vous écoutez toujours la radio ?
Dans mon salon, dans ma chambre, sous ma douche. En fait, n'importe quand.
Alors, on va faire plus compliqué. Un endroit où vous l'écoutez jamais ?
Ah ! Alors, il y en a avoir aussi quand même. Bon, rarement, j'emmène la radio aux toilettes. Hein, rarement. Voire jamais.
Votre meilleur souvenir ?
J'en ai beaucoup. Radio ? Mon meilleur souvenir radio, bien sûr. Je dirais que ce festival organisé par OUFM avec ses 10 000 personnes, la République, c'était incroyable quand même.
Le pire souvenir ?
Des moments où on sait pas quoi dire, mais ça, j'ai envie de dire, c'est triste, mais il y en a quand même un paquet de fois où ça m'est arrivé. Des moments où ça bug, juste, ça veut pas sortir.
Comment on gère dans ces moments-là ?
On rit. Moi, c'est ma technique pour tout. Je ris, et normalement, ça marche.
D'accord. Donc, la prochaine fois que j'entendrai un fou rire de Caroline Chimo à la radio.
C'est peut-être qu'il y a eu un blanc juste avant, ouais.
On saura. Enfin, pour terminer, un conseil à quelqu'un qui voudrait faire de la radio ?
Toujours y croire. Peu importe ce qu'on vous dit. Moi, si j'avais écouté ce qu'on m'a dit chez Nova, parce que j'avais fait des petits tests, et on m'avait dit « Ouh là là, t'as pas une voix de radio, toi ?» Si on écoute, on fait rien. Donc, en vrai, si on a envie, on fait. Et on réfléchit absolument pas. Et surtout, on n'écoute pas les gens qui étaient « Ah, c'est risqué, hein, c'est dangereux, ah, mais oui, mais machin. » Non, il faut le faire.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission. Merci Caroline Chimo.
Merci beaucoup.
D'avoir partagé votre radio avec nous. C'était un plaisir.
Merci Eddy.
Et on vous retrouve avec Éric Jean-Jean tous les jours de 16h à 19h dans le Drive RTL 2. Vous lui passerez bonjour d'ailleurs. Il est venu ici il y a quelques années.
Je vous le rappelle. Il reviendra.
Ça marche. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de La Mécanique des Ondes. On se retrouve le mois prochain, même heure, même endroit radiophonique. D'ici là, n'oubliez pas, podcast à retrouver sur lamecaniquedesondes.com et sur fréquenceprotestante.com.